Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ce matin, je vais vous parler de Jésus, le rocher frappé du Père. Jésus, le rocher frappé du Père, par le Père. On va lire deux exemples. Dans l'Ancien Testament, vous savez, l'Ancien Testament a beaucoup d'images, de types et d'ombres, ce qu'on appelle. Nous allons regarder d'abord dans Exode chapitre 17. Ensuite, nous verrons dans Nombre chapitre 20. Et nous allons voir comment, en fait, Dieu, au travers d'expériences que Moïse va faire, va nous montrer la valeur qu'il mettait sur le sacrifice de Jésus. Nous allons voir comment, dans le premier cas, Moïse va obéir à Dieu. Et pourquoi Dieu va approuver ce que Moïse va faire. Ensuite, nous verrons le deuxième cas, qui est un cas quasiment similaire, où Moïse va désobéir à Dieu et ça va lui coûter très cher. Et nous verrons pourquoi ça va lui coûter très cher. Dans Exode chapitre 17, nous allons lire donc du verset 1 au verset 7, et nous allons voir le peuple d'Israël, peuple très désobéissant, peuple rebelle, peuple qui avait autant de promesses qu'aucun autre peuple sur la terre n'a eu au départ. Comment ce peuple a tout gâché? Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est dans ces deux chapitres, Exode 17 et Nombre 20, il va y avoir le peuple qui va se plaindre. Dieu va dire certaines choses à Moïse qui sont des images absolument incroyables, extraordinaires de ce que Jésus a fait pour nous. Verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4, Moïse cria à l'Éternel, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Verset 6, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Regardez bien ici ce qu'il lui dit. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Il lui dit, tu prends ton bâton. Et il lui dit aussi, je me tiendrai devant toi sur le rocher à Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Nous allons maintenant voir Nombre chapitre 20. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et nous allons découvrir dans ce passage quelque chose de très intéressant. Nous allons voir la similarité au niveau de cette expérience, enfin, entre guillemets, mauvaise expérience, un peuple rebelle qui a soif et qui conteste Dieu et son leader.
Turaza kubona ingene bisa aho ihanga ryanse ryagararije umurongozi Imana yabahaye.
Il est dit toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là où Kadesh, c'est là où mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Verset 2, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu que l'on puisse, où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit... Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convainquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Yo, j'aurais pas aimé être à la place de Moïse et Aaron ce jour-là. Ya 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 ya.
Uyu munsi byari bikomeye kuri Mose na Aaron, sinifuza ko nobaho hantu.
Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.
Koko mwerekanye ukwera muterekanye mwerekanye ukwera kwanje imbere y'Abisiraeli ntimugishikanye iri ko mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanje imbere y'Abisiraeli ntimugishikanye ikoraniro.
On voit deux situations très similaires. En tout cas, on a l'impression qu'elles sont similaires. Mais en fait, c'était deux situations très différentes par rapport à ce que Dieu voulait dire à son peuple. Dans la première situation, le peuple a soif et demande de l'eau à Moïse. Dieu dit à Moïse, je me tiendrai sur le rocher et tu frapperas le rocher avec ta verge, le bâton que tu as. Ce bâton était le symbole de l'autorité divine que Dieu avait déléguée à Moïse. Ce bâton, c'est l'autorité divine que Dieu avait délégué à Moïse. Quand Moïse prenait son bâton, il disait en quelque sorte, j'avance là par autorité que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné des ordres pour faire ça. Je lui obéis au doigt et à l'œil, comme on dit si bien, c'est-à-dire sans condition. Je lui obéis tel qu'il le dit. Et là, Dieu va dire à Moïse, tu frappes le rocher la première fois. Moïse obéit. L'eau coule. On va voir l'image du rocher. On va voir l'image de l'eau qui coule du rocher. Le peuple d'Israël continue. Bien des temps après, dans Nombre chapitre 20. Combien de temps exactement, on ne sait pas. Peut-être que les grands théologiens le savent, mais je ne sais pas exactement.
Moi.
Par contre, je vois le même type de situation se reproduire. Et Dieu lui dit quelque chose. Il lui dit, tu vas parler au rocher. Tu vas parler au rocher. Et là, l'eau va sortir. Moïse est énervé devant tout le peuple. Il avait déjà vécu une expérience avant où il avait frappé le rocher. Mais là, Dieu lui disait, tu vas parler au rocher. Dieu voulait le faire obéir, il nous a donné une image ici très puissante que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Dieu dit à Moïse, tu vas parler au rocher. Moïse s'énerve. Il prend le bâton et il fait ce qu'il avait fait la fois d'avant où Dieu lui avait dit de faire autrement. Où Dieu lui avait dit de taper le rocher. Et là, Moïse, en s'énervant, va frapper le rocher. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, Dieu les sanctionne, Dieu les corrige. Pourquoi? Est-ce que vous avez jamais lu ces passages? En vous disant, mais quand même, Moïse, ce grand prophète de Dieu, là, il fait juste une erreur.
Et
on lui dit, mon vieux, tu t'es payé 40 ans dans le désert et tu vas mourir dans le désert. Quand même, là, Dieu est dur. Il aurait pu dire, bon, bah, les gars, vous n'avez pas tout à fait obéi, c'est pas trop grave. Oui, Moïse, je te donne des circonstances atténuante. Comme nos chers avocats qui essayent toujours de plaider la cause du coupable. Oui, monsieur le juge, vous comprenez, ce jour-là, en fait, quand il s'est réveillé, il avait mal à la tête. Alors c'est pour ça qu'il a volé. Vous comprenez, en plus ce jour-là, sa femme lui avait dit telle et telle chose et ça l'avait énervé le monsieur. Donc quand il est arrivé au travail, bah effectivement, en fait il a mis dans sa poche sans faire attention. Donc monsieur le juge, s'il vous plaît, soyez complaisant avec lui. Vous savez, Dieu est un juge qui est juste. Moïse ne va pas voir ses promesses s'accomplir à cause de ça. On pourrait dire quand même. La première fois, Dieu lui avait dit, tu parles au rocher. La première fois, Dieu... traduit simplement. Alors en fait, Dieu la première fois lui dit, parle au rocher. Et il obéit tel quel. Donc la deuxième fois, bah, peut-être qu'il n'avait pas bien entendu. Mais Dieu va le sanctionner gravement. Dieu va le sanctionner gravement. On va lire un passage qui va nous montrer combien Dieu n'a pas plaisanté avec cette histoire. Deutéronome chapitre 32. On va voir, c'est juste la fin de la vie de Moïse. Et c'est incroyable de voir ce que Dieu va dire à Moïse. Combien cette histoire Dieu va lui ressortir sur un plateau. À la fin de la vie de Moïse, alors qu'il a eu 40 ans de désert, qu'il a vraiment eu des difficultés, il a vu la gloire de Dieu. Il a vécu des expériences qu'aucun autre prophète de l'Ancien Testament n'a
vécu.
Moïse a vécu des choses extraordinaires. Dieu lui parlait avec une voix audible, comme quelqu'un qui vous parle mais vous ne le voyez pas. Il avait des visions régulièrement. Il a fait des miracles qu'aucun pays n'a vécu. Mais Dieu va lui reprocher une chose. Moïse, partout dans la parole de Dieu, on lui donne un témoignage extraordinaire. Mais Dieu va lui reprocher quelque chose. Il va lui reprocher une action. Moïse a fait d'autres erreurs quand nous étudions sa vie. Au début de sa vie, il a fait une erreur. Il a fait aussi quelque chose au niveau marital. Il a fait d'autres erreurs à droite, à gauche. Mais il y a une chose que Dieu va lui reprocher. Une chose qui va l'empêcher de voir ses promesses s'accomplir. Parce que Moïse et Aaron avaient la mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, de leur faire passer le désert avec succès et de les amener dans le pays promis. C'était l'objectif. Et quand on vit du désert, quand on passe longtemps dans le désert, dans tous les domaines, quand on rentre dans le pays, on est heureux. Et on oublie le désert. C'est un peu l'image des situations parfois difficiles par lesquelles nous passons. Où on obéit à Dieu, on attend ses promesses, on en a parlé tout à l'heure dans les dîmes et les offrandes.
Ou
des fois, tu es tout seul avec le Seigneur et tu es en train de pleurer, dire: Seigneur, quand est-ce que ça va se produire? C'est dur en ce moment, tu le sais, Seigneur. Et le jour où ça se produit, tu oublies toutes les souffrances derrière. Ça parle à quelqu'un ce matin,
hein?
Quand on attendait les promesses de Dieu et qu'on était dans la galère jusqu'au bout et que rien n'avait l'air d'avancer, et d'un seul coup, pfiou, tu rentres dans ta promesse et tu dis: ah Seigneur, merci. Ah, j'ai oublié tout le reste des souffrances, je m'en souviens même plus. Parce que tu n'as qu'une envie, c'est de vivre à la lumière de tes promesses. Et là, Moïse ne va pas voir cette promesse s'accomplir. Et Dieu va lui reprocher quelque chose. Verset 48, il est dit: ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne dehors et a été recueilli auprès de son peuple. Dieu est un Dieu de pardon, mais parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Kuko mwampemukiye hagati mu Bisirayeli igihe mwari ku mazi y'Imeriba i Kadeshi mu bugaragwa bw'izini, ntimwerekana ukwera kwanje hagati mu Bisirayeli. Icyo gihugu uzogitegereza, uzogiterereza amaso kiri kure yawe, ariko ntuzokigeramwo icyo gihugu mpaye Abisirayeli.
Dieu aurait pu lui dire plein d'autres choses que Moïse a pu faire. Moïse était un homme imparfait comme vous et moi. Il a fait des erreurs comme vous et moi. Mais c'est bizarre parce que Dieu appuie sur cette erreur. Pourtant, Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu qui est bon, qui est fidèle. Moïse a vécu, comme je vous le disais précédemment, des choses extraordinaires. Mais quand vous lisez l'écriture, Dieu va lui dire: tu ne verras pas le pays promis. Parce que vous avez été infidèle à ce moment-là. Comme si dans le cœur de Dieu, il y avait quelque chose de spécial par rapport à cet événement. Comme si ça avait une importance pour le Seigneur.
Qui
pour nous, êtres humains, pourrait dire, quand même, franchement, Steve, Dieu n'a pas été tout à fait sympa avec Moïse. Il s'est payé 40 ans de galère avec des gens qui lui créent des histoires. Franchement, Dieu aurait pu mettre ça de côté, quoi. Non, Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne lui a pas dit, parce que tu avais fait ça quand tu étais jeune à 40 ans, tu as gaffé, tu as voulu faire mon œuvre avec tes propres forces. Dieu ne lui a pas dit, oui, avec l'histoire de Jéthro et avec la femme éthiopienne que tu as épousée, à cause de ça, tu n'iras pas dans le pays
promis.
Dieu
ne
lui a pas dit ça. Mais il lui a reproché cette histoire du rocher. Pourquoi? Pourquoi Dieu lui a reproché ça? Pourquoi est-ce que Dieu a été si intransigeant sans aucune possibilité? Pour dire, ça, tu as fait ça, c'est pour ça que tu n'entreras pas. Parce que derrière tout ça, il y avait quelque chose de très spécial que nous allons voir. Quelque chose que Dieu voulait montrer à toutes les générations du monde entier. Au chapitre 34, c'est incroyable de voir l'obéissance de Moïse. C'est la mort de Moïse.
Wow.
Ça, c'est vraiment pathétique. Ça nous secoue quelque part. De voir comment cet homme va mourir. Dieu lui avait dit, tu vas mourir sur la montagne. Dieu lui a dit, quand tu vas monter sur la montagne, tu vas contempler la promesse, mais tu vas mourir. Qui parmi nous aurait été pressé de monter sur la montagne? J'imagine que Moïse, il a dû réfléchir. Bon Seigneur, je suis bien dans la plaine, hein? C'est pas mal, hein, finalement, le désert en bas, c'est mieux que le désert en haut. Hein. Je suis pas pressé, Seigneur, tu sais. Hein. D'abord, je voudrais faire une petite balade, aller voir mon beau-père, faire un petit tour. Ah, imaginez quand Moïse a commencé à mettre le premier pas qui montait sur la montagne. Il a dû calculer le nombre de pas qu'il allait faire pour monter jusqu'en haut. Il supposait qu'il y avait 1000 pas à faire. Il devait compter 999,
998.
Je suis à 997 pas de la mort. Mais Moïse a obéi. Ah, il était incroyable cet homme. Il était vraiment incroyable. Vraiment, il avait un caractère exceptionnel. Imaginez-vous, est-ce qu'on n'aurait pas réfléchi en montant sur la montagne? Est-ce que tu aurais dit, oh Seigneur, tu sais, ça monte beaucoup là, on va tourner un peu et puis on va monter plus doucement. Il va monter. Il sait qu'en haut, il le sait. Il va regarder ses promesses et d'un seul coup il va mourir.
Wow.
Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Je vais lire la majorité en français parce qu'on va lire tout le chapitre et Steve va lire juste certaines parties que je lui dirai. Galad jusqu'à Dan, jusqu'à Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Verset 3, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, les villes, les palmiers. Vous voyez, Dieu lui donne là Alors tu regardes bien ce côté-là. Après tu regardes juste à côté. Et après tu te tournes un petit peu, tout doucement. Comme ça. Image après image après image. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. À midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, les villes des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a conduit son sépulcre jusqu'à ce jour. Ça, c'est autre chose, je ne vais pas en parler ce matin. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, le successeur. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Quand nous voyons tout ce passage, nous voyons clairement que Dieu a sanctionné Moïse par rapport à cette histoire. Pourquoi par rapport à cette histoire ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire ?
Il
y a eu tant d'importance aux yeux du Seigneur
qu'il
a pu passer sur tout le reste que Moïse avait fait comme erreur. Et qu'il n'a même pas considéré toutes les choses d'obéissance que Moïse a faites par rapport à cette histoire du rocher. Mais pourquoi donc ? Pourquoi est-ce que Dieu a attaché autant d'importance sur cette histoire où Dieu lui avait dit « par le rocher » et où il a frappé ? Pourquoi est-ce que Dieu lui a tenu tellement rigueur ? À tel point qu'à cause de cet événement, eh bien, Moïse a perdu ses promesses. Nous allons découvrir pourquoi. Dans les deux passages d'Exode 17 que nous avons lus et de Nombre 20, il y a des choses que le Seigneur nous montre dans sa parole qui font partie du cœur de notre rachat. Et où Dieu a voulu, au travers de l'histoire du peuple d'Israël, nous montrer quelque chose de fondamental du cœur même du sacrifice de Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher sur le sacrifice de Jésus.
Il y a
des choses que l'Église de Dieu doit comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu a autant mis d'importance là-dessus ? La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, nous parle de cette histoire. Et va nous montrer l'image qu'il y a derrière cette histoire. On peut lire juste à partir du verset 3. Même un peu plus haut, comme ça on va encore mieux comprendre le contexte, parce que sinon... Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, il parle des Israélites ici, ont tous été sous la nuée, la gloire de Dieu dans le désert, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, c'est-à-dire immergés en Moïse, c'est-à-dire Moïse était leur leader, ils étaient complètement, je dirais, ils étaient obligés de lui obéir. Et dans la mer, verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, verset 4, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui les suivait. Ce rocher était Christ.
Ngo bene data singomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari mu minsi ya cagi bari munsi ya cagicu kandi yuko bose baciye hagati ya cakiyaga cigabanganije bose bakabatirizwa kuba abamose muri ico gicu no muri ico kiyaga bose bagasangira bya byo kujya by'impwemu bose bagasangira bya byo kunywa by'impwemu kuko banwa ku gitandara c'impwemu cabakurikira ico gitandara.
Donc on voit cette image du rocher qui est bien sûr Christ.
Christ.
La première fois dans Exode 17, Dieu lui dit, je me tiens là, je suis présent. Pour lui dire, tu frappes le rocher, je te donne la délégation. La délégation de le faire. En fait, tu vas prendre ma place. Et tu vas frapper le rocher, lui dit Dieu. Dans Exode 17, c'était l'image que Dieu voulait montrer à Moïse, à tout Israël et à la future Église. Tu vas prendre ma place et tu vas frapper car c'est moi Dieu qui vais frapper le rocher. C'est moi Dieu qui vais frapper le rocher et en frappant le rocher l'eau va sortir, la vie va sortir. L'image de ce que Jésus va faire pour nous à la croix. La deuxième fois, Dieu va lui dire dans Nombre 20, tu parles au rocher. Et là, c'était quoi? Dieu ne disait pas à Moïse, tu vas te mettre à ma place. Mais Dieu lui disait, tu vas parler. C'était pour montrer que dans les siècles qui vont venir, il va y avoir des prophètes qui vont annoncer ce qui va se produire avec le Messie. Mais Moïse a eu l'audace de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et qui fait partie du cœur de ce que vous devez comprendre sur la croix du calvaire. Dieu lui disait, parle, annonce d'avance qu'il va y avoir d'un rocher quelque chose qui va couler, la vie qui va couler. L'image de Jésus à partir du rocher qui est Christ, il va y avoir la vie qui va couler, la vie divine qui va couler. Donc la première, dans Exode 17, l'idée c'était de dire, Moïse, tu te places, tu te mets à ma place, je te donne l'autorisation de te mettre à ma place.
Et
tu vas frapper le rocher et la vie va couler. La deuxième fois, Dieu disait à Moïse, tu vas annoncer que l'eau va couler. C'était le prophétique sur la croix. L'annonce qu'il du rocher de Christ, la vie divine allait couler. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 4, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais Moïse a fait une erreur tragique et une erreur que beaucoup pensent qui reflète la pensée de la religion et du monde. Une erreur qui est fausse sur la croix. Les gens pensent que c'est les hommes qui ont condamné et mis à mort Jésus. Les gens pensent que la croix c'est un plan humain avec le diable qui travaillait derrière. Il n'y a rien de plus faux. Et Ésaïe 53 va nous le prouver. Ésaïe chapitre 53. Lors de la croix, il y a quelqu'un qui va subir une punition, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Jésus a été frappé par quelqu'un. et ce n'est pas par les hommes.
Kandi ntiyakubiswe n'abana baba.
Ce n'est pas par les hommes.
Hari wamukubise.
Mais la plupart des gens, même les chrétiens nés de nouveau, lorsque vous leur demandez de décrire la croix, ils disent et ils pensent que ce sont les hommes qui ont mis Jésus sur cette croix. C'est faux. Physiquement, oui. Spirituellement, faux. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ésaïe 53 nous décrit le Messie souffrant. 700 ans avant Jésus, les révélations qu'Ésaïe va recevoir. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de qui ? Frappé de qui ? Des hommes ? Non, de Dieu. Frappé de Dieu, de la part de Dieu. Quand Moïse a osé prendre le bâton sans ordre divin pour frapper le rocher qui était l'image de
Christ.
Il était en train de montrer au peuple et à l'humanité entière plus tard que ce qui se passerait à la croix du calvaire était un plan d'une fatalité pour Jésus, c'est-à-dire de toute façon tôt ou tard ça se serait passé comme
ça.
La croix ne s'est pas passée parce que des hommes ont planifié une heure ou une autre. La croix n'a jamais été l'œuvre du diable. La croix n'a jamais été l'œuvre des Romains. La croix n'a jamais été l'œuvre des responsables juifs du Sanhédrin. La croix a été l'œuvre parfaitement orchestrée, minute après minute, seconde après seconde, par le ciel. Et la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dieu tient particulièrement à cette vérité, frères et sœurs. Dieu a frappé Jésus pour notre péché. Pourquoi ? Parce que tout péché mérite jugement et condamnation. Dieu a dû frapper notre Seigneur Jésus. A dû faire de
Christ
malédiction. Pourquoi ? Parce que le péché devait être jugé dans la chair de
Christ.
C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Et que beaucoup de chrétiens ont tendance à ne pas comprendre. On va regarder 1 Corinthiens chapitre 2. Où la Bible nous montre au travers de Paul que le plan de notre rachat, ce pourquoi Christ vous a racheté, comment il vous a racheté, n'a jamais été un plan satanique ou des hommes. Personne n'aurait pu planifier une telle chose. Et Dieu n'a jamais été surpris par ce qui se passait lorsque son fils était en train de mourir à la croix du calvaire. Dieu n'était pas surpris, il était en contrôle, c'est pas la même chose. Dieu n'était pas là pour se dire, eh bien, écoute mon fils, je vais essayer de t'en sortir, hein. Je vais tout faire tout ce que je peux, tu sais, je suis créateur des cieux et de l'univers. Pas du tout. Mais le Père savait ce qu'il était en train de se passer. Et le Père savait comment il allait ressusciter glorieusement son fils. Le Père savait, il était en contrôle. Ça n'a jamais été été le plan du diable,
la croix.
Le plan des hommes.
Comme
on peut le voir si bien dans tous les films qui nous sont dépeints sur la croix. La Bible nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ou de ce, des systèmes de ce monde, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, c'est les puissances des ténèbres, n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées. C'est-à-dire que les hommes, qui ne sont point montés du cœur de l'homme, ça veut dire que l'homme n'aurait jamais pu faire un tel plan de rachat.
Guyamara turavugana ubwenge hagati mu batunganijwe gose ariko ubwo bwenge subwiki gihe cyangwa ubw'abaganza biki gihe bagenda bayoka ariko tuvugishwe n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga bwari bwaranyegejwe ubw'Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icubahiro cacu kandi mu baganza mu banyacubahiro biki gihe nta wabumenye iyo baba barabumenye nibaba barabambye umwami w'icubahiro.
Ce n'est jamais monté du cœur de l'homme la croix. Mais du cœur de Dieu. Jésus dira dans Jean chapitre 10, verset 17. Qu'il avait l'autorité sur sa vie. L'autorité de donner sa vie et l'autorité de la reprendre. L'autorité. Son heure a été décidée et planifiée par le Père. Sur la croix, Jésus a été frappé par le Père. Parce que sachez une chose, frères et sœurs, tous les péchés qui se sont commis et qui se commettront jusqu'à la fin du monde auront un jugement et une rétribution devant Dieu. Il y en a certains qui ont déjà été entièrement jugés. Il y en a d'autres qui seront jugés. Je n'ai pas dit pour votre vie, parce que vous attendiez ça si vous avez une tête religieuse encore. Lorsque Jésus va mourir à la croix, le Père va lui faire payer le châtiment. Revenons à Ésaïe 53, s'il vous plaît. Verset 5 et verset 6. C'est ça que vous devez comprendre dans la croix. Lorsque Jésus est là, qu'il est à la croix du calvaire, c'est le Père qui va être obligé de le frapper. C'est le Père qui va être obligé de le frapper. Au travers de cela, là, il va devenir malédiction sur cette croix. Il va s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dira qu'il a été fait péché. La Bible va nous dire qu'il a été fait maladie. La Bible va nous dire qu'il a été fait pauvreté. Qu'il va y avoir un transfert lorsque Jésus va mourir spirituellement à la croix. Mais c'est le Père, personne d'autre. C'est ce que Moïse n'avait pas compris. C'est ce que Moïse a fait et c'est pour ça que Dieu l'a sanctionné. Personne ne pouvait frapper le rocher. Frapper Christ. Car la mort n'avait pas de pouvoir sur lui car il était sans péché.
Mais
il n'y avait que le Père qui pouvait frapper Jésus afin qu'il puisse devenir notre substitut, c'est-à-dire prendre notre place. Celui qui osait dire qu'il aurait pu frapper Dieu le Fils qui s'est fait chair aurait fait une abomination. Et Dieu, dans ce passage que nous avons lu dans Nombre 20, avec l'importance que Dieu y attache, les sanctions qu'il a données à Moïse nous montrent clairement qu'il y a un point très sensible ici. c'est que personne
ne
pouvait frapper Dieu le Fils
qui
est venu en chair et qui était sans péché.
Si ce n'était
le Père en vue de nous racheter.
Mais
il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Dieu qui a envoyé le châtiment sur Jésus pour payer pour nos péchés, pour notre guérison, pour notre pauvreté, pour tout ce qu'il y avait et qui nous tirait vers le bas et surtout qui nous empêchait de devenir légalement des enfants de Dieu. Au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel, Dieu, lui a refait tomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Donc
ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que la croix n'est pas un jugement humain. Dieu s'est servi des hommes et de la haine des hommes. Parce que lorsque Jésus donnerait sa vie,
se
laisserait prendre volontairement sa vie, alors Dieu puisse frapper son Fils pour ton péché et pour mon péché. Le Père a dû frapper son Fils, juger son Fils à notre place. À notre place. C'est le cœur de l'Évangile. Personne ne pouvait oser dire ou faire ou donner un symbole que quelqu'un, un être humain, puisse porter la main sur Jésus. Mais c'était le Père. Et Dieu attache tellement d'importance à cela. Et ça s'appelle la substitution. C'est là où il a pris notre place. Jésus n'a pas été frappé par les hommes. En tout cas, pas pour notre rachat. Il a peut-être été flagellé. Il a peut-être été transpercé. Mais
ce
n'est pas ça qui nous a racheté tel
quel.
Le rachat a été fait lorsque le Père a frappé son Fils en transmettant la nature du péché en lui. Et c'est pour ça que Jésus descendra dans les profondeurs du séjour des morts lorsqu'il va mourir physiquement. Le Père a frappé le rocher. Lorsque le Père a frappé le rocher, l'eau est sorti, la vie est sortie. C'est parce qu'il a payé. Il a payé. Et les souffrances de Jésus, non pas, les plus terribles n'ont pas été physiques. Loin de là. Et c'est le prix qu'il a payé du jugement de tes péchés, de mes péchés, de notre malédiction, de tout ce qui s'ensuit avec. Et voyez toujours la croix avec ce regard à partir d'aujourd'hui.
Et
c'est le Père qui a frappé son Fils pour pouvoir nous racheter. Père, nous te remercions pour ta parole.
Et
nous croyons, Seigneur, que ton sacrifice a été tellement coûteux pour toi. Tellement coûteux pour toi, Seigneur. Tellement coûteux. Je prie pour que tu nous révèles davantage les réalités de ce qui s'est passé à la croix. Parce que, Seigneur, nous voulons mieux les comprendre. Afin, Seigneur, d'être zélés pour toi, pour ton royaume, pour être capable capable, Seigneur, de te servir, de t'aimer de tout notre cœur, même si nous ne sommes pas parfaits, que nous ferons des incidents de parcours. Mais Seigneur, nous voulons être zélés pour toi et comprendre. Je prie pour que cette révélation grandisse dans les cœurs, parce que Seigneur, nous refusons de prêcher un faux évangile, un évangile où on dira: venez, venez, vous allez bien vous ressentir, bien vous sentir parmi nous. Seigneur, nous voulons prêcher l'évangile de celui qui a souffert pour nous, qui a été frappé du Père, qui a tout subi pour que nous puissions avoir la vie, la vie qui vient du ciel. Père, je prie pour chaque personne ici, afin que chaque personne, Seigneur, puisse se mettre en face des réalités éternelles, parce qu'on ne joue pas avec ton sacrifice, on ne joue pas avec la grâce, parce que cette grâce t'a coûté tellement cher. Par contre, Seigneur, pour nous elle était gratuite. C'est pourquoi je prie pour que ces réalités spirituelles deviennent de plus en plus fortes, puissant dans chaque personne ici, et que quand il parlera de toi, Seigneur, quand il ira évangéliser, que ça puisse être tellement fort que lorsqu'il dira: tu sais, Jésus a payé le prix pour toi, le Père a frappé Jésus pour ta vie, pour que tu n'ailles pas en enfer. Alors Seigneur, que les gens soient touchés d'une manière spéciale.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.